Bonjour, vous êtes sur www.fréquencemistral.net dans l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs viennent sonder l'intérieur et l'extérieur de nos vies en sons, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres? Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix. Garder tes volets fermés ou laisser entrer la lumière. L'émission d'aujourd'hui est dédicacée à Christelle Marjorie.
Septembre 1954, le président du Conseil, Pierre Ménès France, s'adresse solennellement à la radio. La veille au soir de la rentrée des classes, à tous les écoliers du pays. Il commence par leur avouer son amour des grandes vacances. Lui aussi, à leur âge, voulait qu'elles durent toujours. Et très vite, il se pose avec eux la question. Pourquoi rentrer à l'école alors qu'on est si bien chez soi ou dehors à jouer? Pourquoi? Et il répond sans ambiguïté, parce que l'école existe pour donner des forces aux enfants qu'ils sont aujourd'hui, pour les cultiver, pour leur permettre de grandir et de devenir les adultes accomplis dont leur pays et le monde auront besoin demain. Septembre 1954. Le président du Conseil, Pierre Mendès France, s'intéresse des tout petits riens qui vont devenir grands. 1954, c'est pas si loin. Depuis ce temps, aucun homme politique n'a plus parlé aussi et ainsi à l'enfance et à la jeunesse de son pays, avec cette confiance et ce respect profond, sur ce ton exemplairement républicain, libre d'esprit, égal d'humeur et fraternel. Pourquoi? Les temps ont changé. Une clique de cyniques dangereux est arrivée au pouvoir, qui réussit à faire passer un foulard ou une kippa sur la tête, une croix ou une médaille autour du cou pour des déclarations de guerre à l'humanité, tandis qu'elle-même étale en toute impunité les signes par milliers, extérieurs comme intérieurs, de la vraie religion de l'époque, le fric, la finance, les marchés boursiers, performance, technologie, flexibilité, tout, jusque et y compris l'école, doit à présent obéir à ce commandement. Être rentable. Procurer une rente, donc. Mais au fait, à qui ? Les réformes successives de l'éducation nationale donnent au grand public, embrumé par les grands médias, l'impression d'avoir échoué l'une après l'autre, analyse Jean-Claude Michéa, l'un des sociologues les plus avisés de notre temps, qui n'est pas par hasard admirateur de George Orwell. Or, elles n'ont pas échoué l'une après l'autre, elles ont réussi dans leur ensemble. À quoi ? À mettre en application un programme élaboré dans les années 70 par les hommes de pouvoir, politiciens et chefs d'entreprise, membres de la commission trilatérale, de l'OCDE, du FMI, de l'OMC, de la Banque mondiale et plus tard du G5, 7, 8, 20, Partez et autres instances dirigeantes. Pour être compétitif face aux puissances émergentes du XXIe siècle, l'Occident industrialisé allait avoir besoin d'une part d'une élite auto-reproductrice constituée de 10 à 20% de la population cultivée, matériellement aisée, affranchie à tout point de vue et, d'autre part, d'une masse constituée des 80 à 90% restants, les riens, les sous-développés, ceux qui ne sont rien, ce que seul une larme reste juste là sur le coin, quand tu sais que 80 à 90%, c'est pratiquement toute la population.
Oh,
C'est toi? C'est bien toi? Oh, c'était il y a si longtemps. Je suis vieux maintenant. Quand je rêve que je rêvais de toi. Depuis cette fenêtre ouverte, sur ce jardin orange et vert, et toi peut-être, nu et ébène, qui dansait dans l'ombre, sur les feuilles jaunies. Dans l'automne de notre été, j'entends encore le son de la douceur, de la maison, peut-être de ta voix, je ne sais plus vraiment. J'entends la terre craqueler, boire la fuite de ce satané robinet que j'ai jamais réparé. C'est toi. C'est bien temps. C'est bien toi. Il est temps au détour, juste à cet instant. Une chapelle, une chapelle. Et non, un beau gros soleil. Ah oui, un beau gros soleil dessiné par les mains des mômes. Tu sais, les mômes dessinent des soleils, des gros soleils jaunes. Des soleils de présence, de chaleur. Ah oui. Oui, c'est toi, c'est bien toi, je me souviens bien. Je suis si vieux maintenant. Je suis si vieux. J'essaye d'éclairer dans un halo de pensées dansantes, dans la mémoire qui fout le camp, mon corps qui se réveille, pourtant là. Mais où suis-je, bordel ? Puis, la porte s'est refermée. Et mes mains cherchaient la clé sur mon visage. Mais en fait, non, c'était pas mon visage, c'était ton visage. Je finissais par tout confondre à force de tout prétendre. Un jour, la mémoire t'échappe et tu te confonds dans le monde et tu te confonds dans tout ce qui est. Amour, parti, commencé, fini. Ça ne s'arrête jamais en fait. Depuis cette fenêtre ouverte, sur ce jardin orange et vert. Oui, ça y est, je me souviens, tu te confondais. Je te croyais nu ébène parce que tu te confondais dans l'ombre. Tiens, c'est marrant, des souvenirs aussi précis. Quand on perd le contrôle de son corps, par son esprit, mais qu'on finit par rejoindre le grand tout. Oui, c'est toi. C'est bien toi. Ouais, c'est bien toi. C'est toi au-dessus du vent, au-dessus de la montagne, là où les mâles morts veillent. La question des anges, irruption des démons. Je me demande si je fus l'enfant zigzag des marelles. Devenu, paraît-il, adulte ourlé, puissant, ailé, centré dans la gravité de l'instant. Tel un boxeur de vie à la riposte sèche et conséquente. Les mâles morts veillent au-dessus du vent. Ce qui se passe ici et là dans le bas. Un hardi bouffon s'étonne des regards couteaux assassins, de la bienveillance du vide qui nous sépare. Ça y est, je me souviens. Je me souviens. Je me souviens que je suis né un mois de décembre, dans les années 60, dans une famille où je n'ai manqué, me semble-t-il, de rien, comme on peut dire quand rien n'est parfait et que c'est déjà beaucoup. Je me souviens aussi de cette fois-là. Il me semblait avoir un âge jeune à l'époque où j'étais puissant, zélé tel un boxeur, à la frappe puissante. Je me souviens qu'une personne m'a regardé d'un air grave et m'a dit « Vous êtes capable de... » analyser rapido une situation, prendre des décisions, motiver, stimuler les autres, organisateur né, vous savez élaborer un bon plan de travail. J'ai posé mon stylo et je me suis mis à rêver. Et j'ai rejoint les vastes plaines, aussitôt entrecoupées de villages et de villes, où chacun s'endort, loin de son orgueil, car demain, il fera jour. Beau l'enfant doux qui sommeille et qui reviendra un jour, cet adulte, imprévisible et malléable, mouton, pâte à modeler, aussitôt pris au piège de son orgueil. Puis le soir, viendra retrouver l'enfant doux qui sommeille, éveillé en chacune, chacun, où chacun s'endormira au creux de son enfant. Je me souviens aussi, j'habitais dans un pays appelé France. Ah oui, voilà, j'avais entendu des cris, la France a voté. Vive la France ! Et puis une voix puissante, venue de je ne sais où, revient donc sur les chemins et les sentiers. Revient à l'essentiel, une petite voix presque drôle. Revenons à nos moutons. Il flotte dans l'air un parfum de nous, de notre enfance. La petite voix ajoute : Souviens-toi d'Arthur. Arthur, Arthur. Ah oui, Arthur, je me souviens d'Arthur. Je me souviens de ce vieux professeur qui me l'a fait découvrir. Il nous le présentait ainsi. Enfant rêveur, premier de sa classe, puis déserteur de l'école, ses bonnes croyances, ses espérances, ses sensations. Tu sais, toutes ces choses de poète. Arthur, Arthur, à compte d'auteur, dans la cave de l'imprimeur, chez Poule et compagnie, 37 rue aux Choux, à Bruxelles, Belgique. Te rends-tu compte, mon cher Arthur, ce qu'ils ont fait de ton talent ? Dans les caves de l'imprimeur, toi qui fus enfant rêveur, premier de sa classe, puis déserteur de l'école, avec tes bonnes croyances, tes espérances, tes sensations, enfin toi tu sais bien, toutes ces choses de poète, Arthur. Et je me souviens aussi que la vie a continué avec des grands malheurs, mais avec beaucoup de grand bonheur. Et puis entre des archipels de mots et de notes, dans mes intérieurs, lointains, croisés, d'autres petits qui étaient aussi déjà rêveurs, qui ont envie de s'amuser jusqu'au bout du chemin. Le silence et la paix recherchée dans chaque journée qui vient. La farandole des mots dans cet univers dépeuplé de sourires où les dos s'arrondissent et les têtes tombent. Là, il te suffirait de mourir pour que tout recommence, comme après voyage en rêve. Quand le désespoir et la fatigue s'unissent dans le lot de la journée, dans cet univers dépeuplé de sourires, où les dos s'arrondissent et là où les têtes tombent. Il suffirait parfois de mourir pour que tout recommence. Que tout recommence dans un endroit. Ce serait peut-être où c'est. Plus de futur, plus de présent, plus de passé, simplement l'éternité. Oui, c'est ça, c'est une île, c'est une ville, c'est une ville, c'est une montagne, c'est un paradis, c'est une rue, c'est un silence, c'est un champ, c'est un lac, c'est une source, c'est un océan. C'est une vague, c'est une fleur, c'est un arbre, c'est un monde, c'est une vue, c'est un archipel de mots et de notes, avec des intérieurs lointains ou petits, déjà rêveurs et indomptés. Je recherchais le silence et la paix dans une paradoxale farandole de vers. C'est dans cet univers dépeuplé de sourires où les dos s'arrondissent, tu sais là d'où tombe la tête, où il aurait suffi de mourir pour que tout recommence, après un long voyage en terre de songe, le tout doux murmure de la terre, les paroles qu'elle me chuchote, son secret, la symphonie de la vie, marquée d'un temps, d'un silence et de vibrations perlant des notes comme gouttes d'eau s'évaporent dans la lumière contrastée d'ombre. C'est une partition en trois dimensions. C'est une île. Mais c'est aussi le cœur d'une mémoire, d'une âme qui n'a jamais vu la mer. Inconsolable, c'est un voilier sans équipage qui s'est échoué dans les brumes d'un désert. C'est un amant sans fleurs de peau qui n'attend plus qu'un seul regard pour revivre la joie des jours heureux. C'est le cœur d'une mémoire. Et puis je me souviens, juste avant de tourner la page définitivement sur cette terre, que c'est dans l'adversité que certains hommes puisent leur énergie, avec les singes de mon quartier. C'est là où commence à danser le roi, les petits rois de rien qui dansent et je m'en fous. Le roi danse et c'est important pour vous. Le roi danse, rien n'a changé. Vous dansez chez vous, rien. Le roi danse. Pendant que vous dansiez sur vos tombes. Je me souviens finalement de chaque moment, de chaque instant. Je me souviens aussi d'avoir dansé pour rien. Quand un petit rien s'amuse, un dernier souffle me frôle et semble me murmurer comme une douce musique. À ma nouvelle montre, il est 23h450. Et le temps n'a plus de sens. Loin des rochers, à marée basse, pour discuter avec les flots qui me bousculent, qui me dépassent, qui passent par-dessus ma vie, au loin des dunes. Je suis parti loin, loin, loin à me souvenir. À 23h625, quand le dernier train repartira dans les bourgades de mon ennui, je serai définitivement parti.
Too long for the white man. I was trying to be a do-right man. Thought I was riding on the soul train until I woke up in the cold rain. I can't understand it. I can't understand it, baby. I've been sleeping too long in the wrong bed. I was trying to cool off a hot head. Thought I was swimming in the big pool until I woke up in my old school. I can't understand it. I can't understand it, baby. I can't understand it. I can't understand it, baby. On the corner with my tail hanging out, looking for a lover in a real bad crowd. And I can't seem to hide the feeling that I'd love to be revealing. Standing on the corner with my tongue in my head, looking for a lover and the sky is so red. And the moon is so bright, I don't want to turn out the light. Tell you twice, but I think you're very nice. I would like to know you well. Won't you come into my arms? I won't do you no harm. You will find the light is on. That's a special little word, and it comes right from the bird. I ain't said it for a while. It would make me very glad. I would be no longer sad, and the world would be my home. Standing on the corner with my tail hanging out, looking for a lover in a real bad crowd. And can't seem to hide the feeling that I love to be feeling. Standing on the corner with my tongue in my head, looking for a lover and the sky is so red. And the moon is so bright, I don't want to turn out the light. I can't understand it, baby.
Il y a entre toi et moi une adorable barrière. C'est ta mort qui l'a construite. Son bois est du silence. Il n'est pas épais. Un rouge-gorge s'y pose. Quand tu étais de ce monde, j'adorais traverser avec toi la campagne au vert surnaturel, ses chorales de sous-bois et ses poèmes de barrière. La barrière qui me sépare de toi est pauvre. Ses piquets suivent les mouvements de ma pensée. Ils ondulent. Tu es de l'autre côté de la vie, pas si loin, somme toute. Bien moins loin de moi que ce médecin que j'ai vu feuilleter des visages toute la journée sans en regarder un seul. Les yeux vides ont envahi tous les métiers. Le monde n'aime pas les barrières de bois décolorées, mangées par les lichens, ces murailles qui laissent passer l'air, le parfum du chèvrefeuille et le rire des fantômes. Même après toutes ces années, dans ton joli cimetière de campagne, ton visage revenant a le vif d'une rose de jardin. Aux modernes qui ne savent pas compter, ou qui ne savent que compter, j'oppose la lente passion des nuages, les heures ardentes au chevet d'une phrase, et ton visage, quand une crédulité le visitait. Un tremble se tient à l'entrée du champ, comme un jeune garçon de ferme venu demander du travail. Il attend, sa casquette de lumière dans son poing serré. Le manque est la lumière donnée à tous. Alors, comme mes frères les moineaux, je travaille paisiblement à l'effondrement des banques et des maisons de retraite. Tous ces petits moineaux, tous ces petits riens. Tu m'apparais devant les remparts d'une ville ouvrière, ton beau visage d'indienne frappé par le soleil des soleils. Tu portes ton pull à croisillons blancs que j'aimais tant. Les couteaux qui guérissent volent plus vite que la lumière, à la seconde où je ne vois une lame s'enfonce dans ma poitrine. Il découpe une ouverture large comme une main d'enfant. Il faut 130 fleurs différentes pour faire l'élixir des chartreux. Autant pour écrire un poème. J'ai vu un boxeur jouer du piano. J'ai vu un œuf de caille dans l'herbe. J'ai vu un chat couvrir de brindilles la dépouille d'une souris. J'ai vu Mandelstam courir tout Moscou pour défendre 5 vieillards condamnés à mort. J'ai vu un assassin dont le cœur était un rubis. J'ai vu un pain trempé par la pluie appelé au secours. J'ai vu des liserons s'agripper à une barrière comme des prisonniers à leurs barreaux. J'ai vu un bébé offrir le trésor d'un gâteau écrasé dans sa main sale. J'ai vu la huppe maçonner son nid avec ses excréments blancs, plus éblouissants que les paroles des ermites. Je n'ai jamais lu de définition satisfaisante de l'amour. Je n'en lirai jamais. J'ai simplement vu un boxeur jouer du piano.
little too much sometimes, walking around with your feet on the ground and your head is somewhere, but you don't really care where, 'cause you've been around the block and you know how to rock, but not around the clock. It's a little too much sometimes, but what can you do when all around you everybody's changing lovers every day, and all of the mothers and brothers and sisters and fathers watch you from their windows, standing in the shadows. It's a little too much sometimes, when out on the street all the people you meet are laughing at the clothes you wear. They're holding their sides and with tears in their eyes they call your name. You can't even turn around without feeling like a clown. Yeah, I hear people talking on the street. You know how people love to talk, and they certainly love to talk about you. Why, I hear people say things I can't repeat. Why, just the other day, somebody swore that you don't exist. And somebody else said that you'd never been born. Sometimes walking around with the sun in your eyes and your face is turning red like the sky over your bed. You've been walking the dog in the rain for so long, you wouldn't know a sunny day if it came along. Too much sometimes, when you feel your heart, your little heart is beating louder than a drum, and you don't know where it's coming from, kicking like a baby ready to be born. All you know is what is wrong. Let your little heart sing. Oh, sing it, baby. Let a song go out of your heart, let it fly away and fall apart, out of the sky into the sea, like a sweet melody. It's a little too much sometimes, yeah, but you gotta be strong, if you want to last very long, you don't have no choice, lift up your voice. You better try, 'cause it either gets smart or die. Sooner or later, everybody gets smart if they live long enough. In a world where everything is for sale, it's hard for a guy with no money to stay out of jail. Sweet music in the trees, a song of the sea, sung by the breeze. When you're not afraid, nothing really matters. You can lie down in the street or walk under ladders. And the cold hands of fear seem to have grown warmer. When they touch you now, you don't even shiver.
Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh!
Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin?
Mais il n'est pas juif.
Ah si.
Mais pas de notre famille.
Si.
Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
Mon grand-père avait été déporté à Buchenwald. Un jour d'hiver, en colonne vers la carrière, il glissa sur une plaque de glace et se retrouva par terre. Le SS qui escortait son groupe arma son fusil. Mon grand-père eut alors la présence d'esprit d'éclater de rire. Le SS éclata de rire aussi. Mon grand-père se releva. Il survécut à la déportation. Deux des plus grands sages de la ville de Kelm en Pologne se promenaient un jour ensemble. Tout à coup, il se mit à pleuvoir. « Pourquoi n'ouvres-tu pas ton parapluie ?» demanda le premier sage au second. « Ça ne servirait à rien, » répondit l'autre. « Mon parapluie est plein de trous. »« Alors pourquoi l'avoir emporté avec toi ?» demanda encore le premier sage. « Je ne pensais pas qu'il allait pleuvoir, » répondit l'autre. Un jour à Kelm, un pauvre Schlemil eut la chance de trouver une bourse contenant 500 roubles. Quelle aubaine pour un pauvre! Mais ce pauvre bougre avait déjà entendu dire à la synagogue que l'homme le plus riche de la ville avait perdu sa bourse et qu'il offrait la somme stupéfiante de 50 roubles en récompense à quiconque la lui rapporterait. Le pauvre Schlemil s'empressa d'aller trouver le riche et lui rendit sa bourse. Le riche en vérifia le contenu, puis d'un ton désagréable dit au pauvre « Je vois que tu t'es déjà récompensé. Il y avait 550 roubles dans ma bourse. » Indigné, le pauvre exigea, comme le veut la coutume, que tous deux se rendent auprès du rabbin pour démêler l'affaire. Après les avoir attentivement écoutés, tous deux, le rabbin de Kelm se tourna vers le riche et lui dit « Je suis sûr que vous dites la vérité, Reb Soin. Un homme comme vous ne saurait mentir. » Cette déclaration provoqua la stupéfaction du pauvre Schlemil. Mais aussitôt, le rabbin tendit la bourse à ce dernier. Cette fois, ce fut au tour du riche d'être stupéfait. Le rabbin s'expliqua. « Vous, Reb Soin, le riche notable de notre ville, vous n'avez certainement pas menti. Lui, le pauvre, non plus. D'ailleurs, s'il avait été malhonnête, il aurait gardé pour lui tout le contenu de la bourse. Or, selon vos propres dires, votre bourse contenait la somme de 550 roubles. Celle-ci, ai-je entendu dire, en contenait 500. Ce n'est donc pas la vôtre qu'il a trouvée, mais celle d'un autre. Je dis qu'il doit la garder en attendant que son propriétaire la lui réclame. » À Kelm, un jour, l'un des disciples d'Asa Schlemil trouva une boussole dans la rue. Il apporta l'objet mystérieux à son maître qui l'examina soigneusement avant de soudain fondre en larmes. Quelques instants plus tard, il se mettait à rire aux éclats. On aurait pu douter de sa santé mentale. Finalement, Asa Schlemil se calma et il expliqua ainsi son état à son disciple. « J'ai d'abord pleuré, dit-il, parce que j'étais vraiment triste de ton ignorance, que tu ne saches pas à quoi sert cet instrument. Puis, j'ai éclaté de rire, quand je me suis aperçu que moi non plus, je ne le savais pas. »
poem gelé lungo negro meia, mala di le chorore.
Alors qu'il était devenu très âgé, Asa Schlemihl déclara un jour devant le grand conseil des grands sages de Kelm qu'il était toujours aussi fort que dans sa jeunesse. « Comment le sais-tu ?» lui demanda l'un des grands sages. « C'est simple, » répondit Schlemihl. « Nous avons chez nous un gros mortier en marbre très lourd. Quand j'étais jeune, je n'arrivais jamais à le soulever. L'autre jour, j'ai essayé de nouveau, je n'y suis pas parvenu non plus. C'est bien la preuve que je suis aussi fort que dans ma jeunesse. » Un jour, Mendélé le pauvre cherchait un moyen de gagner un peu d'argent. Comme il passait devant une maison en construction, une idée lui vint à l'esprit. Il ramassa deux morceaux de briques, les frotta l'une contre l'autre et obtint ainsi une poudre rouge. Il recueillit cette poudre dans des cornets en papier et s'en alla au marché de Kelm les vendre comme poudre insecticide. Une cliente s'approcha bientôt de son éventaire et lui acheta un cornet. « C'est efficace contre les puces ?»« Efficace ?» répondit Mendele. « Il n'y a rien de pareil sur le marché. »« Mais dites-moi, monsieur, comment s'en sert-on ? » ?»« Oh, c'est très simple, » répliqua Mendele. « Vous prenez la puce entre le pouce et l'index, vous lui ouvrez la bouche, vous lui faites avaler un peu de poudre et elle meurt instantanément. »« Mais enfin, » s'écria la femme, « si je tiens la puce entre le pouce et l'index, je n'ai qu'à appuyer fort pour l'écraser. » « Oui, c'est vrai. C'est aussi un moyen. » Le rabbin de Kelm et l'un de ses étudiants talmudistes passaient la nuit à l'auberge. L'étudiant demanda à l'aubergiste de le réveiller à l'aube, car il avait un train à prendre, ce que fit l'aubergiste. Ne tenant pas à réveiller le rabbin, l'étudiant farfouilla dans le noir à la recherche de ses vêtements, et dans sa hâte, il enfila la longue tunique rabbinique. Puis il se précipita à la gare et comme il s'installait dans le train, il fut stupéfait de l'image que lui renvoya le miroir de son compartiment. « Quel imbécile que cet aubergiste !» s'écria-t-il d'une voix pleine de courroux. « Je lui avais demandé de me réveiller et au lieu de cela, il a réveillé le rabbin. » Selon notre tradition, le monde reposerait sur 36 justes qu'on appelle les Lamed Vav. Rien ne distingue ces Lamed Vav des autres hommes. Souvent, ils s'ignorent eux-mêmes. Mais si jamais ils venaient à en manquer un seul, la souffrance des hommes empoisonnerait jusqu'au cœur des petits-enfants et l'humanité tout entière étoufferait dans un cri. Car les Lamed Vav sont le cœur multiplié du monde et en eux se déversent toutes nos douleurs comme on en a réceptacle. Quand un juste, un Lamed Vav, monte au ciel, il est tellement glacé que Dieu a besoin de le réchauffer 1000 ans entre ses doigts avant que son âme puisse s'ouvrir au paradis. Et l'on sait que plusieurs d'entre eux demeurent pour toujours inconsolables du malheur humain, de sorte que Dieu lui-même n'arrive pas à les réchauffer. Alors de temps en temps, le Créateur avance d'une heure l'horloge du jugement dernier. À l'un des deux bouts du monde, il y a une montagne. Sur cette montagne se dresse un rocher. De ce rocher coule une source. À l'autre bout du monde vit le grand cœur du monde, car le monde aussi a un cœur. Et c'est son battement au grand cœur du monde qui maintient le monde en vie. Un jour, alors qu'il regarde au loin, le cœur du monde aperçoit la source. Et cette vision éveille son désir et son amour. Comme toutes les créatures de la terre, le cœur du monde veut se rapprocher de sa bien-aimée. Alors il quitte son bout de monde, il franchit la grande distance qui sépare les deux bouts de monde et il arrive au pied de la montagne d'où coule la source. Une fois là, le cœur du monde réalise qu'il ne peut plus faire un seul pas en avant, que s'il s'avance dans l'ombre de la montagne à cet instant même, il perdra de vue la source. Et si le cœur du monde perdait de vue la source, ne fût-ce qu'un seul instant, il en mourrait, le monde entier en mourrait, toutes les créatures de la terre en mourraient. Le cœur du monde s'arrête donc à l'endroit d'où il peut encore voir la source. Car il a compris qu'il ne pourra désormais jamais rien faire d'autre que de la regarder. Seulement regarder. Mais le soleil baisse. Bientôt il fera nuit. Dans l'obscurité, le cœur du monde perdra de vue la source et il en mourra. Sachant cela, le cœur du monde se met à chanter. Son chant parvient à la source. La source lui répond avec son chant à elle. Les deux chants se rencontrent dans l'espace, ils se fondent en un seul. Ce chant unique se répand sur toute la terre. Toutes les créatures de la terre l'entendent et comprennent à travers ce chant qu'au terme de ce jour, le cœur du monde mourra. C'est alors que s'éveillent en elles leurs propres chants. Tandis que s'élèvent les chants de toutes les créatures de la terre et que le soleil baisse, le monde est parcouru par un des Lamed Vav, l'un des 36 justes qui, selon la tradition juive, apparaissent à chaque génération. Et ce Lamed Vav, c'est un être qu'on dit de réelle grâce, qui dans la vie quotidienne exerce le métier de tisserand. Ce tisserand rassemble les chants de toutes les créatures de la terre. Avec ses chants, il tisse du temps. Cela donne un jour de plus. Ce jour de plus, le tisserand l'offre au cœur du monde, qui lui l'offre à son tour à la source, sa bien-aimée, à travers son chant. C'est ainsi que fait de chant et d'amour, le temps est recréé jour après jour. Depuis lors, il y a toujours juste assez de temps, jamais plus. Toujours juste assez de temps, pour un jour de plus. Un jour, le disciple d'un maître spirituel de Cracovie était assis dans un coin d'une auberge quand il entendit deux hommes discuter. À leur conversation, il comprit que l'un d'entre eux était l'ange de la mort. « Oui, disait ce dernier, j'ai plusieurs rencontres à faire dans votre ville au cours des 3 semaines à venir. » Le disciple terrifié se cacha jusqu'au départ des deux autres. Puis, se sentant directement visé, il se demanda comment faire pour échapper à l'ange de la mort. Finalement, il décida de quitter Cracovie au plus vite afin d'éviter toute rencontre funeste. Il loua un cheval rapide et galopant nuit et jour sans relâche, il atteignit la lointaine cité de Samarcande. Pendant ce temps-là, à Cracovie, l'ange de la mort rencontrait par hasard le maître du fuyard. Ils se mirent à discuter de choses et d'autres. « Et comment va votre disciple un tel ?» demanda l'ange de la mort. « Il doit être quelque part en ville, » répondit le maître. « C'est étrange, » dit l'ange de la mort, « parce qu'il figure aussi sur ma liste. Mais dans un mois exactement, et pas ici, à Cracovie. »« Ah bon, où ça ?» demanda encore le maître. « Dans une ville lointaine. Vous connaissez Samarcande ?»
Je viens de poser la veste parce que je vais jouer du violon de zigane et le violon de zigane se joue sans veste. C'est pour ça que je joue du violon de zigane. Et puis mon oncle m'a dit, le violon, deux choses l'une, ou tu joues juste ou tu joues zigane. Moi, j'ai pas tellement le choix, je joue zigane. Il y en a qui prétendent que le violon ne supporte pas la médiocrité, c'est faux. Le violon supporte la médiocrité. La preuve.
Nos anciens connaissaient le pouvoir des rochers qui sécrètent une eau pareille aux larmes. Dressés sur des vortex, ils scellent l'épée du futur roi, deviennent des trônes et marquent l'emplacement des trésors. Ils gardent en mémoire le passage des géants, des saints, des héros, l'empreinte de drames et de miracles. Certains affichent une silhouette humaine, d'autres protègent les sites avec les devas, les fées, les nains, les vouivres. Les pierres détiennent le pouvoir de croissance et de divination. Comme les sources et les simples, elles soignent. On lit sur elles des signes et des runes. Mais une autre de leurs vertus était connue des bardes. Celui qu'on appelait Morgane avait été choisi par les poètes. Dorénavant, le vivre et le couvert lui étaient acquis dans toute la contrée. S'il n'avait pas l'aura du vieux Manorline, il était maintenant lui aussi un porteur de paix. Nul ne pourrait plus dégainer d'armes en sa présence. Le roi lui-même devrait respecter sa parole. Il lui faudrait de longues années d'apprentissage pour se hisser au rang de son vieux compagnon, maîtriser sa voix, en mesurer ses effets avant d'agir. Il avait accepté de porter le flambeau de la tradition. Il servirait les 3 prouesses de mémoire des bardes de Bretagne. Le récit des rois, les généalogies des nobles âmes et le beau langage. Fidèle aux 3 piliers de la connaissance, le chant, les secrets et la sagesse. Enfin, il avait agréé aux 3 désirs sacrés des bardes, parler avec intelligence, se conduire sagement et dispenser l'harmonie et la paix. Manorline avait étreint le jeune barde après la cérémonie d'intronisation. Avec douceur et malice, il avait évoqué la prochaine célébration de Beltaine. Au feu éclatant du 1er mai, le peuple deviendrait poète. Il alternerait psalmodie et sarabande embrasée parmi les troupeaux, incantation aux esprits lumineux. La victoire de la lumière sur les ténèbres était source d'inspiration pour les bardes, qui comptaient plusieurs nuits, conscients que la parole vivante recréait le monde. Morgane frissonna. Admis le jour même dans le cercle des élus, le vieux chanteur d'épopée le désignait pour honorer Beltaine. Il savait ses racontées longues, rythmées et modulées. Il devrait apprendre les tirades, les inflexions de voix, des poèmes interminables, des joutes, laisser briller les étoiles entre les épisodes, les odes et les mots. Puis, ajouter son propre sel, sa signature, ce que le vieil homme appelait la musique d'une seule âme. « Nous avons le temps, » fit Mannerling d'un ton affirmé. « Je devrais retenir de longs poèmes, raconter plusieurs nuits et tout dérouler sans me tromper. Je n'ai jamais compté plus de quelques heures. Nous nous y emploierons, tu seras prêt à temps. » Dès l'aube, ils furent à la clairière, s'assirent sur une grosse pierre qui bordait le lit d'une source. C'était le lieu idéal des apprentissages. « Je ne suis qu'un parmi d'autres. Ici, toutes les bouches enseignent aux passeurs, » confia le vieux barde. « Écoute-les. N'essaie pas d'enfermer les mots dans ta tête. Ne les retiens pas comme on bloque une eau qui croupit. C'est ici que je t'ai offert ton premier conte. Je ne t'y avais pas emmené sans raison. Apprendre par cœur, c'est puiser à ta propre source. Ici, je te dirai tout d'un trait. Ne cherche pas à posséder ou retenir toute cette eau qui coule. Deviens l'eau du récit. » Au fil des jours, le vieux barde déroula son épopée près de la source et Morgane écouta l'eau rythmée du récit. Un matin, l'ancien appela le maître du jour. Il ne fut pas long à se manifester, sous la forme d'un roitelet à belles teintes d'olive et aux chants mélodieux. L'oiseau fit retentir des mélodies osées, jouant avec les émois du jeune barde. Le lendemain, le maître du jour fut le vent, la bise qui souffle au sommet des arbres et conduit la voix des héros. Puis, la pluie virtuose de fluidité, fraîche et abondante, le soleil et la rosée. Et encore loups, chouettes, abeilles et bourdons, tous unis dans la trame qui porte Beltaine. « Nous voilà arrivés aux choses de la mémoire profonde, » dit Mannerling. « Choisis un arbre. » Le jeune homme opta pour un grand châtaignier qui avait eu la bonne idée de trouver la lumière sans devoir batailler avec les chênes et les hêtres. « Ce frère est ton récit, avec ses racines, son tronc principal, ses branches et ses ramifications. Comme tu peux toucher l'écorce, tu peux sentir la chair des mots. Il est grand, il doit être lourd. Choisis quelques grosses pierres plates et ramène-les ici. » Morgane trouva les pierres en contrebas du ruisseau. « Je vais te dire toute l'épopée sans m'arrêter. Tu vas t'allonger, je mettrai sur toi les pierres. Comprends-tu ?» Le jeune homme fut surpris. Pour que tout ton corps absorbe l'arbre, c'est un secret bien gardé. Rassure-toi, tu ne finiras pas comme une galette. » Le vieux barde s'adressa aux pierres. « Sœurs, qui êtes si patientes et sages, recevez toute parole comme une pépite et déposez-la dans la terre de cet homme où vivent des cerfs farouches, des lichens et des truites vives. Faites-le afin qu'il puisse lancer son cri, son chant sur toutes les îles de ce monde. Merci. » Mannerling reprit l'épopée et, le moment venu, plaça sur son semblable la première pierre, puis la seconde et ainsi de suite, pierre après pierre, durant de longues heures, jusqu'à ce que le récit pénètre le jeune barde. Après l'avoir libéré, il posa une main sur son épaule. « Tu possèdes ton premier arbre. Quand tu seras un barde chevronné, tu auras en toi toute une forêt et 1000 pierres t'auront tissé un manteau de mémoire. Tout ce qui vit, fleurs, vents, oiseaux seront tes aides, témoins de tes apprentissages. C'est auprès des mousses qu'on progresse et là qu'on remercie. »
sinking. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone.
My son,
wherever he lay, his hat was his home.
L'enfant s'assit dans le tipi du vieil indien et montra ce qu'il avait découvert sur la colline. Cette pierre n'était pas comme les autres. Il l'avait entendue chanter. Bien qu'il eût 7 ans, sur un nuage attendait avec solennité le verdict du sage. Ours qui boit sourit devant sa gravité, sortit sa pipe du sac médecine en peau de caribou et déroula les étoffes contenant le tuyau et le fourneau. Le vieillard, aux cheveux de neige, les assembla, introduisit du tabac et des herbes. Sans un mot, allumant la pipe, il signifia à l'enfant qu'il avait rapporté Tunka, la pierre sacrée. Le vieil homme murmura en rejetant des volutes de fumée, puis tendit le calumet au garçon. C'était un grand honneur. Vois-tu sur un nuage, les êtres pierres voyagent sur le dos du grand mystère. Ils cheminent avec Wakantanka, le grand esprit. Ces cailloux ont du pouvoir, ils connaissent des choses qu'ils viennent chanter. Le fourneau du calumet a été apporté à notre peuple par la jeune fille Bison Blanc qui nous a offert Inyan, le rocher rond et rouge d'où viennent nos pipes. Jadis, des chasseurs se servaient de pierres comme celle-là pour les questionner et apercevoir les hordes de bisons. Pour certaines de nos cérémonies, nous nous servons des tout petits cailloux consacrés par les fourmis. Les petits cailloux aussi savent chanter. Tout comme les pierres grand-mères chauffées au feu sacré de la loge, que nous arrosons d'eau et de cèdre pour suer et nous purifier. Un jour, une jeune fille de notre tribu trouva elle aussi Tunka. Comme elle portait du bois, elle mit la pierre dans sa bouche, mais trébucha et l'avala. Bientôt son ventre s'arrondit et elle mit au monde Inyan Oxy, l'enfant né de la pierre, celui qui a conçu la cérémonie de la loge de sudation. Tunka partage le silence du grand esprit. Elle parle en sa présence. Tu es réceptif au message, elle t'a choisi. Quand un être pierre sort de terre, c'est qu'il ne veut pas rester seul et qu'il a trouvé un porteur. Aucun sage ne pourrait le déterrer s'il ne venait à lui. La pierre m'a choisi, grand-père ? Oui, mon garçon. Elle est venue effleurer le sol et chanter pour que tu me la portes et que je te conte l'histoire du porteur de pierre, pour que tu saches comment vivre à ses côtés. Jadis, le grand esprit a enfoui des pépites, des cailloux et des rochers dans la terre pour attirer la force de l'éclair et du tonnerre. Parfois, le grand mystère cherche un être humain. Alors l'être pierre rejoint la surface et appelle. Un jour, il y a longtemps, un Indien allait dans les collines quand il entendit chanter. C'était une voix pure, comme de l'eau, qui sort d'un rocher. Il se tourna de tous côtés sans rien voir d'autre qu'une petite pierre ronde. Dès qu'il l'eut prise, il comprit la parole de toutes les choses rondes. Le soleil, la lune et la roue de médecine. Ce cercle de pierres sacrées où se tient notre peuple. Il entendit la voix de l'œil, du nombril, de la gourde et de la crécelle. Saisit celle du tambour. Tout cela grâce à la pierre. « Et je rêve !» pensa-t-il. Mais quand il ne se réveillait pas, lorsqu'elle lui murmura « Viens !», il la suivit. « Où ça, grand-père ?» reprit l'enfant. Chez Garçon Lapin qui l'accueillit avec sa joie coutumière. Garçon Lapin ? Oui, l'Indien qu'on peut couper en morceaux et qui ressuscite. Le filou qui a nommé les plantes et les animaux. Celui qui est bizarre et qui initie les curieux dans ton genre. Garçon Lapin a donc pris le porteur par la main. Il lui a remis une chemise en peau de daim écarlate, décorée de piquants de porc épic. L'œil coquin, il a averti sa femme qu'il sera absent 3 jours et sur ce, ils sont partis. En chemin, il a demandé au jeune homme de choisir un endroit pour dormir. Il savait ce qui allait se passer. La pierre a chanté. Non, pas là, va plus haut. Ici vit un ennemi. L'Indien a entendu, ils sont montés. Plus tard, Garçon Lapin l'a mené au bord de la falaise qui surplombe le canyon. La pierre a chanté. Serre-toi de l'arc-en-ciel, traverse. L'Indien a écouté, ils ont traversé. Après ça, Garçon Lapin s'est foulé la cheville exprès, puis il a ligoté son compagnon. La pierre a chanté, libère-toi, soigne-le. Le jeune homme a compris, s'est libéré, a cueilli des herbes et fait un onguent. Garçon Lapin, guéri et satisfait des progrès de son apprenti, est reparti en gambadant, a pris son arc, tiré une flèche. À peine plantée, elle est devenue un peuplier frémissant. Par ce prodige, il voulait lui montrer que toute intention soutenue atteignait sa cible. Sur le chemin du retour, ils ont bravé une nuit de charbon. La pierre a chanté « Tu peux voir dans la nuit ». Et l'Indien a cru Tonka, il a trottiné. Ils ont retrouvé le tipi, la femme de Garçon Lapin les a accueillis gaiement. Et le plus drôle est à venir. À l'aube, un guerrier hirsute est entré, accompagné d'un squelette, d'une femme qui tousse et d'un aveugle. Ces quatre-là avaient besoin d'un bon guérisseur. Garçon Lapin demanda à l'Indien de les soigner. Ce fut une belle cérémonie. C'est tout, grand-père ? C'est tout. Rien qu'une petite pierre ronde qui chante Tunka. Tu l'as ramassée ? Quand tu entendras la parole mystère des choses rondes dans sa voix, tu penseras « Eh, je rêve !» Puis, bien réveillé, quand elle te dira « Suis-moi », tu la suivras.
Tes bottines qui bloquent la machine, qui fait d'une ville un désert, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière. Perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils du soleil et du vent. Et du ciel, un ange gardien du néant, un grain de poussière, infiniment petit ou grand. de poussière. Perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent.
Ce soir, vous avez entendu les voix de vos petits riens serviteurs des ondes et du web. J'ai nommé Nathalie Vautier.
James Fontaine.
Vous avez entendu des bruits de pas et de la forêt sous la bienveillance de notre technicien qui fait du son pour un rien, j'ai nommé Christophe Becquereau, et qui nous a mixé les musiques, les extraits de Bobby Lapointe, The Temptation et New Morricone, Higelin, Vic Mohan, Dafer Youssef, un extrait de In the Mood for Love de Rabbi Jacob. Des textes, des contes des sages du ghetto, des contes des sages gardiens de la terre, et quelques textes inédits de votre serviteur et aussi du grand, magnifique Christian Bobin. Prochaine émission, le jeudi 31 août 2017, même heure, même endroit. Tu as toujours le choix de laisser rentrer la lumière
ou de garder les volets fermés.
À la prochaine et bonne soirée.
Bonsoir.